Bonsoir, merci Charlotte, merci à ce lieu de m'accueillir et merci à vous d'être venu à cette heure, pas forcément commode si vous aimez dîner, pour parler de Victor Hugo. Alors moi ce que je vous propose de faire en environ trois quarts d'heure, c'est vous emmener dans une croisière dans les îles de la Manche avec un capitaine qui s'appelle Victor Hugo. Alors, ce qui est pratique, c'est que Victor Hugo, je n'ai pas trop besoin de le présenter. Les îles de la Manche non plus. J'imagine que vous êtes de coin. Vous connaissez un petit peu cet archipel, Jersey, Guernesey, Cerque. Vous connaissez peut-être un peu moins les Écrelous et les Maquis, qui sont deux beaux archipels, mais qui ne sont pas desservis par des liaisons commerciales. Pourquoi s'intéresser simultanément aux îles de la Manche et à Victor Hugo? Parce que ça peut révéler une facette assez méconnue de Victor Hugo, ou tout au moins permettre d'effectuer un voyage dans son cerveau à une époque d'une vingtaine d'années qu'il a passé en exil ici, où il va se passer beaucoup de choses chez Victor Hugo. Alors d'abord, Victor Hugo a écrit un petit texte sur les îles de la Manche qui s'appelle L'archipel de la Manche, qu'il avait conçu comme une préface à un de ses romans qui s'appelle Les travailleurs de la mer, et l'éditeur n'en a pas voulu. Il trouvait que c'était un peu hors sujet, c'est un texte qui doit faire 30 pages, il trouvait qu'en tête d'un roman, ce n'était pas opportun. Le texte est très beau. Victor Hugo connaît cet archipel et il a été payé pour le connaître malgré lui, y passant 18-19 ans. Je vais vous en lire quelques lignes de ce texte parce que je trouve que c'est une bonne introduction à, non seulement à cet archipel, mais aussi à la manière dont Hugo le voyait. Dans l'archipel de la Manche, écrit-il, la côte est presque partout sauvage. Ces îles sont de riants intérieurs, d'un abord âpre et bourru. La Manche étant une quasi-méditerranée, on laissera à Hugo la responsabilité de cette appréciation. La Manche étant une quasi-méditerranée, la vague est courte et violente, le flot est un clapotement. De là, un bizarre martèlement des falaises et l'affouillement profond de la côte. Qui longe cette côte passe par une série de mirages. À chaque instant, le rocher essaie de vous faire sa dupe. Où les illusions vont-elles se nicher? Dans le granit, rien de plus étrange. D'énormes crapauds de pierre sont là, sortis de l'eau sans doute pour respirer. Des nonnes géantes se hâtent, penchées sur l'horizon. Les plis pétrifiés de leurs voiles ont la forme de la fuite du vent. Des rois à couronne plutonienne méditent sur de massifs trônes à qui l'écume n'est pas épargnée. Des êtres quelconques enfouis dans la roche dressent leurs bras dehors. On voit les doigts des mains ouvertes. Tout ça, c'est la côte informe. Approchez, il n'y a plus rien. La pierre a de ses évanouissements. Voici une forteresse. Voici un temple fruste. Voici un chaos de masures et de murs démantelés. Tout l'arrachement d'une ville déserte. Il n'existe ni ville, ni temple, ni forteresse, c'est la fête. Voilà pour cette introduction. Alors, notre croisière, on va la faire en trois étapes. D'abord, tout seigneur, tout honneur, le Mont-Saint-Michel, puis Jersey, puis Guernesey. Et voyage retour, c'est possible. Commençons par le Mont-Saint-Michel. Alors, le Mont-Saint-Michel, Hugo le découvre en juin 1836, lors d'un de ses voyages estivales avec sa compagne, enfin sa maîtresse Juliette Rouet, et les propos qu'il a laissés sur le Mont Saint-Michel sont restés dans l'histoire, bien qu'il n'y ait passé que quelques heures ce jour-là. Alors le Mont Saint-Michel, Hugo l'a beaucoup aimé de loin. Il était assez rédacteur, il écrivait par exemple à une amie, il écrivait à sa fille, plus exactement. « Il écrivait « À l'extérieur, le mont Saint-Michel apparaît, de 1000 lieues en terre et de 15 en mer, comme une chose sublime, une pyramide merveilleuse dont chaque assise est un rocher énorme façonné par l'océan, ou un haut habitacle sculpté par le Moyen-Âge, et ce bloc monstrueux a pour base tantôt un désert de sable comme Khéops, tantôt la mer comme Tenerife. » Alors, le mont Saint-Michel comme Khéops, c'est une image qui est restée plutôt flatteuse. Mais dès que Hugo s'est rapproché du mont, c'est devenu nettement moins flatteur. Et pour une bonne raison, c'est qu'à l'époque, 1836, l'abbaye était une prison. Et le mont n'était pas tout à fait dans l'état qu'on connaît aujourd'hui. Donc, à une autre ville, il écrit « Un lieu bien étrange que ce mont Saint-Michel. Autour de nous, partout, à perte de vue, l'espace infini, l'horizon bleu de la mer, l'horizon vert de la terre, les nuages, l'air, la liberté, les oiseaux envolés à toutes ailes, les vaisseaux à toute voile. Et puis, tout à coup, là, dans une crête de vieux mur au-dessus de ma tête, à travers une fenêtre grillée, la pâle figure d'un prisonnier. Jamais je n'ai senti plus vivement qu'ici les cruelles antithèses que l'homme fait quelquefois avec la nature. » Ça, c'est un dessin du mont par Victor Hugo. Alors, il ne l'a pas fait à l'époque parce qu'il commençait tout juste à dessiner. Celui-là, je crois qu'il l'a fait dizaines d'années après. Joli dessin. Les dessins de Victor Hugo valent une fortune aujourd'hui. Et on a bien tout le style d'Hugo. Je retrouvais ce propos de Paul Claudel, qui un jour commentait le dessin de Hugo, et ça s'appelait très très bien ce livre. Il écrivait en 1928 « Cette vue directe sur l'âme de Victor Hugo, sans rhétorique, paraphrase ou traduction, ce sont les tragiques dessins que nous avons tous regardés, cette chimie magnifique du noir avec le blanc. On peut dire sans exagération que le sentiment le plus habituel à Victor Hugo, celui où il a trouvé ses inspirations les plus pathétiques, sa chambre intérieure de torture et de création, c'est l'épouvante, une espèce de contemplation panique. » C'est vrai dans les dessins, c'est vrai dans les écrits, souvent, une contemplation panique. Voilà pour le mot. C'était court, mais franchement, il n'y a pas passé beaucoup de temps, et je ne crois pas qu'il y soit retourné après son voyage de 1836. Ici, nous passons à Jersey. Cette villa, c'est Marine Terrace. C'est la villa que louait la famille Hugo à Jersey. Alors, Hugo arrive à Jersey en 1852 et il va rester 3 ans à Jersey. Et ce qui est plus connu d'Hugo à Jersey, c'est quand même ces fameuses séances de table tournante, parlante, dont vous avez probablement tous entendu parler. Oui. Et elles sont intéressantes parce qu'elles sont tout à fait anecdotiques et par certains côtés pas du tout anecdotiques. Pourquoi? Donc Hugo arrive à Jersey en août 1852. Il a été banni par l'empereur Napoléon III. Il est quasiment en fuite, c'est un exilé. Il a quitté Paris précipitamment pour se réfugier à Bruxelles pendant quelques mois, et il cherche un point de chute, et Jersey lui semble une terre idéale, parce qu'on y parle encore un peu français, plus beaucoup, enfin plus qu'aujourd'hui en tout cas, c'est près de la France, et on lui a vanté cet endroit comme étant très beau, et ce qui, d'emblée, il a trouvé Jersey très belle. Par ailleurs, Chateaubriand, son modèle, être Chateaubriand en rien, se trouve à avoir passé quelques semaines à Jersey, donc il y avait beaucoup d'avantages. Le problème, c'est qu'à Jersey, Hugo va rapidement s'endetter. Enfin, il écrit, certes, mais bon, ça ne lui suffit pas. Et la femme que vous voyez derrière moi, qui s'appelle Delphine de Girardin, débarque, c'est une amie parisienne de Hugo, qui débarque à Jersey. Beaucoup de gens viennent voir Hugo à Jersey, ses amis. Delphine de Girardin, c'est une femme qui a un salon littéraire à Paris et qui est toujours au courant des dernières nouveautés. Et la nouveauté en juin 1852, à Paris, c'est le spiritisme, les tables tournantes. Pourquoi ? Donc, ce genre de séance. Ça, c'est pas du tout contemporain de Hugo, c'est postérieur. Enfin, voilà à quoi ça ressemblait. C'était quasiment un jeu de société. Et le spiritisme, je dis quelques mots dessus rapidement, parce que c'est important de comprendre d'où vient cet attrait de Hugo pour le spiritisme. Ces trois femmes, c'est les trois sœurs Fox. Ce sont trois Américaines qui habitaient à Hillsville, dans l'État de New York. Leurs parents avaient acheté une maison qu'on disait hantée. C'était en 1848. La communication avec les esprits n'était pas une nouveauté à l'époque, sauf que ces trois filles, les filles Fox, vont un peu systématiser le système. Elles trouvent un moyen pour communiquer avec l'esprit qui hante leur maison, un moyen en tapant des coups contre le mur. Le mur répond. Enfin bref, elles établissent une communication physique avec un esprit. Alors évidemment, ça fait sensation, les gens viennent voir, ça marche, les gens sont convaincus. Et en l'espace de quelques mois, c'est une déferlante, d'abord dans tous les États-Unis, puis dans le monde entier. D'abord parce que, après les coups, on va utiliser des tables qui vont tourner, les tables tournantes, et puis après, elles vont parler en tapant des coups avec leurs pieds, les tables parlantes, et tout ça, tout ce développement va se passer en 3-4 ans. Et en juin 1952, les tables parlantes débarquent à Paris, en Russie, en Afrique, en Amérique du Sud, en Angleterre, partout. Peut-être que c'est la première grande exportation culturelle des États-Unis, sans Internet, sans télé, sans radio, simplement par la force de la conviction. Et cette déferlante, après avoir touché l'ensemble de la planète, finit par échouer à Jersey, par l'intermédiaire de Delphine de Girardin, dont je vous montrais une photo tout à l'heure. Et Delphine de Girardin va acheter un petit guéridon dans un magasin de jouets à Saint-Hélier, à Jersey, et les premières expériences sont un échec absolu. Ça ne marche pas du tout. Les gens qui font tourner les tables à Marine Terrasse, c'est-à-dire principalement la famille Hugo et ses amis, sont tentés de laisser tomber. Mais la veille du départ de Delphine de Girardin, donc cette amie introductrice du spiritisme, il tente une dernière expérience. Et là, tout d'un coup, ça marche. Et qui se manifeste à travers le guéridon ? Léopoldine. Léopoldine Hugo, la fille de chérie de Victor, morte en 1843, noyée dans la Seine au large de. Voilà. Et donc, ou c'est une affreuse supercherie, ou c'est une ignominie. On est en train de se moquer d'un père en lui faisant croire que sa fille lui parle à travers la table. Et Hugo choisit de croire. Il ne peut pas croire qu'on lui fasse un coup pareil, donc il choisit de croire. Et la table devient intarissable pendant des mois, s'y manifeste Voltaire, Jésus-Christ, Mahomet, Shakespeare, Dante, plusieurs figures mythologiques comme le lion d'Androclès. C'est un vrai défilé. Et Victor Hugo n'est pas toujours présent à ces séances, mais souvent il prend des notes quand il est là et il fait des comptes rendus des tables, de ce que disent les tables. Voilà. Ça, par exemple, c'est un compte rendu d'Hugo. Un jour où la table avait imposé qu'on éteigne toutes les lumières. Donc il a écrit comme ça, dans le noir, quelques propos pas très cohérents. Enfin, il y a des choses plus cohérentes. Les tables ont dicté quatre gros cahiers, comme ça, à la famille Hugo, qui ont été excités. Quatre gros cahiers rouges. Il y en a deux qui sont à la Bibliothèque nationale, il y en a deux qui sont portés manquants. Mais on a le facsimilé de ce qui était écrit. Donc voilà, je reviens à mon propos. Est-ce que c'était anecdotique ou pas pour Victor Hugo de faire tourner le tas ? Oui, si l'on considère que c'était la mode du moment et que, ma foi, l'exil est long et il faut bien occuper le temps. Mais en même temps, non. Parce que Hugo ne fait jamais les choses à moitié. Et il va prendre les tables tellement au sérieux qu'il va les interroger, il va leur faire composer de la poésie, il va leur demander ce qui va se passer à l'avenir. Et peu à peu, à travers ce dialogue entre Hugo, dont on connaît l'ego, et le défilé de génie qui s'exprimait à travers les tables, c'est établi un dialogue, et tout d'un coup, Hugo se demande s'il n'est pas en train, à travers ces discussions, d'écrire la Bible d'une nouvelle religion, pas moins. Il demande à la table qu'il y aura-t-il dans ma tombe un poète ou un prophète. C'est-à-dire que là, Hugo n'est pas loin de tomber dans une sorte de délire théologique, en tout cas messianique en ce qui le concerne, se pensant l'intermédiaire entre les forces supérieures de l'esprit et Dieu et le reste du monde. Alors attention, Dieu pour Hugo, c'était le Dieu de Voltaire, c'était un déiste, c'est-à-dire qu'il croyait en Dieu, mais il ne croyait pas au Dieu des Églises. Dieu pour lui, c'était une sorte, disons pour parler comme le révolutionnaire, d'un être suprême. Donc, pas vraiment anecdotique, puisque Hugo se prend vraiment au jeu, au point de passer pas très loin de la folie. Ces séances qui vont quand même durer 2 ans prennent fin subitement lorsqu'un des participants devient fou. Apparemment, Hugo n'était pas le seul à prendre les choses très, très à cœur. Un des participants, qui était un peu fragile psychologiquement, devient fou, est interné. Et tout d'un coup, les gens se demandent si c'est bien raisonnable de continuer ces séances. Il se trouve que par ailleurs, ça c'est en octobre 1956, Hugo est banni de Jersey, parce qu'il était un petit peu remuant. Il avait eu des propos un peu sévères contre la reine Victoria pour diverses raisons qui ne sont pas mon propos ici. Et donc il est, expulsé. Et jamais Hugo ne refera de séance de spiritisme, bien qu'il va rester quand même relativement attentif à tout ce qui est supranaturel. Il faut quand même bien voir qu'à l'époque où le spiritisme apparaît, la science n'est pas ce qu'elle était aujourd'hui. On ne connaissait pas encore les ondes électromagnétiques qui vont être étudiées dans les années 1870-1880. Donc, spiritisme, monde électromagnétique, tout ça, c'est assez flou. Et on peut croire à beaucoup de choses, on peut croire à tout, tant que ça n'a pas été démontré. Et Marie Curie elle-même a fait des séances de spiritisme. Avec Pierre Curie. Il se trouve qu'elle n'a pas été vraiment convaincue. Pierre Curie l'a été, il a laissé des écrits assez incroyables sur le spiritisme. Ça a pris du temps pour dégonfler ces illusions auxquelles il est très facile de céder, parce que je suis sûr que beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, ont essayé de faire tourner ou parler les tables, et le fait est que ça marche pas mal. Après, on peut s'interroger sur pourquoi les tables tournent. Qu'est-ce qui les fait tomber? Moi-même, non seulement j'ai fait des séances de spiritisme, mais j'en ai fait une dans la maison Victor Hugo à Paris, avec un médium patenté qui est à gauche, en face avec les lunettes, c'est le directeur de la maison Victor Hugo, moi je suis à droite, et la directrice de la communication de la maison Victor Hugo est à côté de moi. Alors pourquoi on a fait ça? On a fait ça parce que la maison Victor Hugo de Paris accueillait une exposition sur art et spiritisme, qui est un sujet formidable, parce qu'il y a beaucoup d'artistes spirites, il y a une grande vogue de l'art spirit qui continue encore au Brésil, il y a beaucoup d'artistes spirites. Et donc il y avait une exposition et, qui avait été faite avec ce médium-là, que vous voyez sur l'image. Et donc moi j'ai proposé au directeur de la maison de faire. Faisons une séance, essayons de parler avec Victor Hugo. Et là, nous aussi, on a fait les choses sérieusement, on est venu avec 3 caméras qu'on a. Ça se passe dans une des salles du musée. Le soir de la fermeture, on a fait amener un guéridon en chaîne qui doit peser pas loin de 80 kg. On a fait venir la médium, on a mis les caméras et le guide, mais total. Vraiment, rien de rien, jusqu'au moment où le guéridon a commencé à se balader dans la salle, et je peux vous, j'ai les images en vidéo pour le montrer. On le touchait à peine du bout des doigts et le guéridon se baladait dans la salle. Bon, surprise, et donc à ce moment-là, le médium lui dit: bon, ben les gars, Victor Hugo a l'air d'être là, quelles sont vos questions? Ben, on n'en avait pas, tellement on n'y croyait pas, et donc on s'est retrouvé un peu comme des idiots, avec ce guéridon qui bougeait, qui était la preuve pour le médium. L'esprit de Victor était là, et nous, on était là comme des idiots. Donc on a fait diverses expériences, notamment d'écriture automatique, un peu comme les surréalistes, qui n'ont pas donné grand-chose, mais on s'est quand même bien amusé. Alors après, on donne les explications qu'on veut. Moi j'en ai quelques-unes, étant scientifique de formation, je pense que... Mais je vous les épargne. Autre manifestation du paranormal qui à Jersey, et celle-là est très peu connue, vous ne devez pas connaître le temps, c'est ce qu'on appelle l'épisode des allumettes. Alors, que j'ai retrouvé à la maison Victor Hugo. Dans cette enveloppe sont les quatre allumettes que j'ai envoyées dans la nuit du 23 au 24 mars 1854. Alors, c'est quoi ces allumettes? Elles étaient cachées dans les archives de la maison à Victor Hugo, place des Vosges à Paris. Personne ne les avait extraits. Je les sors et je vais voir ce qu'on disait Victor Hugo. Et voilà ce qu'il écrit. Il écrit dans son carnet. 24 mars 1854. Voici ce que la table parlante, a dit hier soir. Étaient présents Madame Victor Hugo, Charles Hugo, le fils, Auguste Vacry, un ami de la famille, et c'est Auguste Vacry qui mène l'annonce. Il demande à la table: y a-t-il quelqu'un là? La table frappe deux coups. Deux coups, ça veut dire non. Auguste Vacry dit: non. Qui est-ce qui répond non? La frappe tape deux coups. Mais il y a quelqu'un, puisqu'on répond non, qui est là? Peux-tu dire qui tu es? Non. Tutoyez volontiers les esprits dans la table. La table répond non. Y a-t-il quelque chose qui tienne? Oui. Quoi? La table répond: Domus Vestra. Civis mecum loqui vet in via, ce qui veut dire en latin, votre maison. Si tu veux parler avec moi, viens dans la rue. Genre, sorte, c'était un arbre. Auguste Vacry, qui a une intuition folle, dit: est-ce que tu es la dame blanche que le barbier dit qu'on a vue près de la maison? La dame blanche, c'est des esprits, des fantômes, surtout dans les îles. La table répond oui. Et si nous allions dans la rue, te verrions-nous? Oui. Cette nuit? Oui. À quelle heure? 3 heures. Nous apparaîtrais-tu si nous étions plusieurs? Non. Il faut être seul? Oui. Madame Victor Hugo demande: nous aimes-tu? Nous es-tu sympathique? Oui. Auguste Vacry: ainsi tu ne veux pas parler ici? Non. Fin de la séance, la dame blanche apparaît. Récit de Victor Hugo, dans un de ses carnets, il écrit: je suis monté me coucher à 11h30 du soir, donc ce fameux soir-là, j'avais des motifs d'inquiétude et de tristesse, en outre un travail que je fais en ce moment préoccupe et m'agite. J'ai mal dormi. Vers 1h du matin, j'ai entendu François Victor qui rentrait. C'est Charles, donc l'autre fils, qui est allé lui offrir. François Victor, Charles et ma femme ont causé un moment dans la salle à manger où l'on avait continué à faire parler la table. Ah oui, après la même planche, ils ont fait parler Molière. Un instant après, chacun est rentré dans sa chambre et j'ai entendu mes deux fils qui couchent dans les deux chambres voisines de la mienne monter l'escalier du second étage que j'habite. Le silence s'est fait, la maison s'est endormie, je me suis assoupi. Au milieu de cet assoupissement, j'ai eu une perception exacte des environs. Des objets environnants, et en réalité, je ne dormais pas. J'étais dans cet état depuis un temps assez long quand un coup de sonnette m'a brusquement éveillé. C'était la sonnette de la porte qui sonna dans le calme profond de la nuit, de la façon la plus claire et la plus distincte. Je me suis soulevé sur l'oreiller, j'ai écouté. Tout était retombé dans le silence, rien ne bougeait dans la maison. Je me suis dit, personne dans la maison, personne de la maison n'est dehors, ce n'est pas quelqu'un de la maison qui a sonné, s'il était 3 heures par hasard. J'ai combattu cette idée et puis j'avais quelque répugnance à me lever à cause du froid. Cependant, je me disais, ce coup de sonnette est singulier et il serait bien étrange qu'il fût 3 heures. Je me suis jeté à mettre du lit et je dois dire, puisque j'y vis tout, que j'ai eu un mouvement de précaution comme si quelqu'un eût pu être présent. Les volets de mes fenêtres n'étant pas fermés, la nuit n'était pas très sombre et il ne faisait pas noir dans ma chambre. J'ai pris la boîte d'allumettes qui était sur ma table et j'ai frotté plusieurs allumettes successivement contre le mur. La quatrième a pris feu et j'ai allumé ma bougie. J'ai regardé ma montre suspendue au-dessus d'une chaise, près de mon chevet. L'aiguille marquait 3h05. Il y avait environ 5 minutes que le coup de sonnette m'avait réveillé. Voilà ce que fait Victor Hugo, soit d'un vrai coup de sonnette, soit d'une illusion sonore qu'il a eue sur la foi de ce qu'avait raconté l'État. Là aussi, on est libre d'y croire, de ne pas y croire, mais là, on peut être admiratif devant l'imagination de Victor Hugo, qui fait feu de tout bois. Chaque événement devient un événement, une cérémonie, éventuellement un texte. Voilà, je m'en tiens là sur le surnaturel, bien qu'on pourrait continuer à Guernesey, où nous arrivons maintenant. Les esprits frappeurs ont continué à se manifester, du moins auprès de nous. Donc, où en est Hugo? Hugo, en 1848, avait atteint son apogée. Il était à Paris en 1848. Il était reçu par le roi Louis-Philippe. Il était académicien, chevalier de la Légion d'honneur, père du royaume, auréolé de la gloire de ses textes théâtraux, Hernani, Ruy Blas, etc. De son roman Notre-Dame de Paris, de ses poésies, c'est le chef de file du romantisme. C'est un homme arrivé. C'est un gars, il a 46 ans, ce siècle 22 ans, 48, 46 ans. Et en gros, c'est l'heure où les hommes s'assoupissent, du moins à cette époque-là. Or, quelque chose va le réveiller, comme la Dame Blanche. Mais là, c'est en 48. C'est la révolution. Hugo qui a démarré politiquement plutôt royaliste, assez à droite, va pas cesser d'aller vers la gauche pendant sa vie. En 48, c'est la révolution. Et là, Hugo, tout d'un coup, prend fait et cause pour la République. Pour la cause sociale, pour la République. Et tout d'un coup, il découvre quelque chose. Et comme d'habitude, il ne le fait pas à moitié. Il devient vraiment militant républicain et quelques discours sont restés, très célèbres, etc. Donc 48, point de basculement. Quand Hugo arrive à Guernesey, qui va être son lieu d'exil le plus long, en octobre 55, il a donc 53 ans. Et là, il fait plus que ce qu'avait dit. Victor Hugo connaît une sorte de résurrection. Alors, d'une part, l'air bénéfique de la mer, sans doute, l'exil. On perd moins de temps en mondanité, on voit moins le monde, on travaille plus, on réfléchit peut-être mieux au milieu de la mer. Surtout qu'il n'a pas beaucoup d'amis à Guernesey. Et il y a quelque chose de l'ordre du génie qui se réveille en lui. Si Hugo n'avait jamais été en exil à Guernesey, je crois qu'on en parlerait beaucoup moins, peut-être qu'on n'en parlerait pas plus que de Lamartine. Mais là, il se passe quelque chose d'assez stupéfiant, c'est que tout d'un coup, Hugo explose. Ses dessins, absolument formidables, ses textes, Les Misérables, commencer à Paris, mais qui va vraiment finir à Guernesey, Les Travailleurs de la Mer, Les Contemplations, commencer à Jersey, les quantités de textes. Tout d'un coup, c'est un phare qui est sur Guernesey. Il s'adresse à la planète entière, il milite contre la peine de mort, pour la paix. Tout le monde se tourne vers lui, où qu'on soit sur la planète, pour solliciter son avis, son soutien. Hugo, tout d'un coup, n'est plus un simple artiste. C'est une sorte de génie avec une emprise d'impact. Voilà qui est Hugo au 55 quand il arrive. Alors, pour autant, si on le connaît, s'il est célébré à Paris de loin, puisqu'il n'a pas remis les pieds depuis 51, il n'a pas beaucoup d'argent. Il en a un petit peu, mais pas beaucoup. Et il arrive à Guernesey avec une malle manuscrite dans laquelle il y a une bonne partie des contemplations. Demain dès l'aube, à l'heure où l'on cherche à donc un tout entièrement consacré, enfin initié par la mort de Léopoldine. Et les contemplations sont distribuées à Paris, connaissent un succès phénoménal. Et tout d'un coup, Hugo devient riche. Il devient riche et pour la première fois de sa vie, il va acheter une maison. Il n'avait jamais acheté. La place des Vosges, c'était une location. Partout, c'était en location. À Jersey, c'était une location. Et il achète une maison, d'abord parce qu'il a les moyens, et surtout parce que quand on est propriétaire guernesien, on ne peut plus être expulsé. Or là, il a été expulsé de Bruxelles, expulsé de Jersey. Non, d'abord expulsé de Paris, Bruxelles, Jersey. Il y a un moment, on a envie que ça de sortir à Londres. Il serait bien allé à Londres, mais il n'aimait pas Londres, il parlait très mal anglais, et il voulait rester dans une terre un petit peu française, enfin française, où on parle un peu français. Et donc, il achète une maison qui s'appelle Haute-Villalouse. Je fais juste une petite incidente parce que je vois que vous avez cette image. Ça s'appelle la table aux encriers. J'en parle parce que c'est une transition entre Jersey et Guernesey. La table aux encriers, ça fait un peu penser aux tables tournantes. C'est une table qu'a confectionnée Hugo à Guernesey. Il y a quatre encriers. Il y a l'encrier de Georges Sand le voyez, l'encrier d'Alexandre Dumas, l'encrier d'Alphonse Lamartine et l'encrier de Hugo. Il les a réunis sur une table. Tout ça pour la vendre aux enchères à Guernesey au profit des enfants pauvres de Guernesey. Eh bien, croyez-le ou non, cette table n'a pas trouvé preneur. Parce qu'à l'époque, les gens de Guernesey ne s'intéressaient pas beaucoup à la littérature française. Ils savaient en gros qu'il y avait un type qui s'appelait Victor Hugo, qui était connu, mais ce n'était pas un candidat. Et donc, cette table est restée dans la famille Hugo, et aujourd'hui, elle est place des Vosges à la maison. Voilà, fin de cet incident. Haute-Villahausse. Et ben voilà l'entrée de Haute-Villahausse, ça fait un peu entrée de prison. Elle vient d'être refaite, cette maison, comme vous le savez. Il y a eu 3 ans de travaux, je crois. Elle a ouvert en 2020, juste au moment où la pandémie est arrivée, donc elle a refermé aussitôt. Gros travaux de rénovation intérieure, extérieure, des jardins, ça coûtait un fric fou. Un pognon de dingue, comme l'un et l'autre, mais le résultat est stupéfiant parce qu'ils ont vraiment refait l'intérieur à l'identique, les draperies, les moquettes, les tapis, c'est très étonnant. Mais c'était un crève-cœur que de fermer la maison rénovée aussitôt qu'elle avait ouverte. Heureusement pour nous, elle vient de rouvrir le mois dernier. Voilà. Et il y a même maintenant des bateaux qui peuvent nous y emmener. Pas beaucoup de Granville, un peu plus de Saint-Malo, mais ça faut vraiment le coup. Cette, c'est la maison des vues derrière, du jardin. Là, elle est déjà plus avenante, moins riche. Alors, l'intérieur est assez sombre. C'est le goût de l'époque. Surtout que c'est une maison que Hugo va complètement faire à sa main. Il va la décorer, il va en faire sa chose. Rien que dans cette image-là, il y a 40 symboles qu'a voulu mettre Hugo, je ne vais pas vous les détailler. mais c'est aussi une maison qui a des aspects pluriants. Ça, c'est une verrière, c'est pas le cas de ça. Ça peut être au rez-de-chaussée ou au premier étage. C'est là que la famille Hugo se tenait plus souvent parce que c'était quand même la pièce la plus respirable. Jolie vue. On voit dans le fond Hermes et l'île de Cerque. Et ça, on passe d'un extrême à l'autre. Là, c'est tout en haut, c'est ce fameux lookout où travaillait Hugo au bout de quelques années, hein, parce que ça a été construit assez tardivement. D'abord, il travaillait sur les petits, voyez, les petits divans là. Avant, il y avait un mur. Et donc, Hugo travaillait là. Grâce à cette ouverture, il est allé. Qui est allé visiter la maison Victor Hugo? C'est pas mal, 50%. Quand on l'a vu, on y retourne. Quand on l'a pas vu, on s'est précipité. Je ne travaille pas pour le Facebook de tourisme de Guernesey. Donc ça c'est voici ces fameuses tapis, broderies qui ont été refaites dans les couleurs d'origine après. Ça, c'est sans doute la pièce la plus modeste, c'est la chambre de Victor Hugo qui se trouve juste à côté de du lookout, de la verrière. C'est une sorte de lit bateau là, qu'il y a au fond, quelques tiroirs, très simple, rien de. Tout à fait en contraste avec le reste de la maison qui déborde de dorures, de. Voilà, il y a des salons, ça c'est avec le salon bleu. Il y a la maison fait 3-4 étages, il y a des salons comme ça qui ne servent pas, qui sont là pour la para, pour les réceptions assez rares, parce que les Guernesais ont ça pas beaucoup, en tout cas rarement. Mais donc ça tranche. Alors, je disais que Hugo avait complètement fait cette maison sa main, mais non seulement il l'a fait, mais il l'a signé. Son nom apparaît dans beaucoup d'endroits, sous forme d'initiales, sous forme de signature. Il n'arrêtait pas de faire des brocantes sur l'île, il achetait des vieux coffres, des meubles de marine, il transformait tout ça, il en faisait d'autres meubles, il achetait beaucoup d'objets, ça sert de tout, entre autres. Bref, il a fait beaucoup de recyclage et quand il ne travaillait pas à son écriture, le matin, l'après-midi, il chinait, il sculptait, il faisait de la menuiserie, il baladait, il nageait tous les jours. À Jersey, il a même fait un peu de cheval. Victor Hugo cavalier, ça n'a pas duré longtemps, mais. Voilà encore un des couloirs de rez-de-chaussée. De part et d'autre, c'est de la Croix des Sèvres, je crois que Louis-Philippe avait offert. Un roi de France va faire de la vaisselle avec Victor Hugo, qui s'est empressé d'en faire une sorte de couloir comme ça, jusqu'à remettre au plafond. Il avait une passion aussi pour les faïences de Delft. Ça, c'est les fameux escaliers. Et la cuisine, enfin la salle à manger plus exactement, la cuisine est au sous-sol. Cette salle à manger, c'est un vrai problème, parce qu'on peut y passer 3 heures sans tout savoir. Tellement il y a d'indices, de gravures, de symboles, et notamment, à commencer par cette cheminée, vous voyez ce double H qui est derrière, qui peut être Haute-Villahousse, qui peut être Hugo, qui peut être beaucoup de choses. Et quand on s'approche, on voit des mots, des phrases. Bref, ça vaut le coup d'aller la voir, parce que moi je. Bon, alors il se trouve que j'ai fait avec mon éditeur et ses présents un livre et une excellente photographe, Claudine, le premier livre sur la maison après la rénovation. Donc je ne vais pas tellement vous en dire plus, si ce n'est que. Excusez-moi. Oui. J'en viens un petit peu en arrière pour parler de la maison de manière un peu latérale. Donc Hugo arrive en octobre 55 et il va à l'hôtel de l'Europe quelques jours. Il est arrivé avec un de ses fils, sa famille arrivera plus tard, le reste de sa famille. les chercher une maison. Il en trouve une sur Hauteville Street, où il ne reste pas très longtemps, cette petite maison, et puis il en trouve une autre, une maison qu'on dit hantée, décidément les esprits poursuivent Victor Hugo. C'était un armateur de Game Design du nom Topper, et quand il achète cette maison, il décide très vite d'y faire d'énormes travaux. Les travaux vont durer des années. Et la femme de Victor Hugo, à qui Paris manque beaucoup, Adèle Hugo, et à ses fils et à sa fille, M. Lamborde aussi, voit avec beaucoup d'inquiétude Hugo se lancer dans ses travaux, parce qu'il voit ça et il dit, ça y est, il est parti pour s'installer. Et on ne va pas arriver à le déscotcher. Et ils avaient parfaitement raison. Hugo s'est vraiment senti bien avec Ernesto. Il a fait plus qu'une maison, il a fait un manifeste. Et il va y rester jusqu'en 70, puisque, avait-il dit, lorsque la liberté rentrera, je rentrerai. C'est-à-dire, lorsque Napoléon III, son ennemi irréductible, quittera le pouvoir, il rentrera. Il avait été amnistié depuis longtemps, et il avait dit non, tant que Napoléon le petit, comme il l'appelait, ça va, je rentrerai. Quand la liberté rentrera, je rentrerai. C'est un courage, surtout quand il aurait été libre de le faire. Mais il avait sa fierté, et puis il aimait beaucoup Guernesey. À tel point que quand il va revenir à Paris, il va garder cette maison et il y reviendra souvent. Il va y écrire. Il retourne y écrire son dernier roman. Il retourne y écrire des poésies. Et il restera profondément attaché à cette maison. Je me perçois que c'était 3/4 d'heure que je parle, et ça fait beaucoup. Écoutez, je vais m'arrêter là, et si vous avez des questions, je serai extrêmement heureux d'y répondre. Sinon, je vous souhaite une excellente soirée. Merci.
Juliette Drouet était la grande femme de Victor Hugo.